En tambour et en trompette, pourquoi pas? Voici le journal de 8h avec vous Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Volte-face du gouvernement ou discours qui s'adapte à la réalité, les mots en tout cas ont changé sur la stratégie face au coronavirus. Les masques dits alternatifs désormais encouragés, de quoi désarçonner les Français. Les masques objets de convoitise partout dans le monde, à l'origine même de petits incidents diplomatiques, notamment entre la France et la Suède, on le verra. Confinement, liberté individuelle, justice au ralenti, des thèmes que vous aborderez avec votre invité à 8h20, Eric.
Oui, le magistrat Denis Salas. Question effectivement ce matin sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Pendant l'état d'urgence, vos questions au magistrat Denis Salas. C'est maintenant, le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
Dans l'actualité également, 2 morts, 5 blessés dans une attaque au couteau hier dans la Drôme. Un réfugié d'origine soudanaise arrêté. La droite et l'extrême droite qui accusent le gouvernement de laxisme. À suivre également Air France KLM qui négocie un prêt, 6 milliards d'euros. Le retour en France des passagers du Zamdam, ce paquebot qui errait sur fond de crise du coronavirus. Parmi eux, l'écrivain Olivier Barrault. Et puis un festival 100% confiné sur Internet, histoire de voyager un petit peu.
France Inter.
Jusqu'à tout récemment, le gouvernement expliquait que c'était inutile de porter un masque lorsque l'on n'est pas malade, réservé au personnel soignant, entendait-on au début de l'épidémie de coronavirus. Le discours depuis a changé, notamment sur les masques dits alternatifs, en tissu, fait maison parfois, avec une protection en tout cas inférieure aux masques chirurgicaux ou les FFP2. Vendredi, l'Académie de médecine estimait que porter ces masques alternatifs devrait être obligatoire pendant le confinement. Le même jour, le directeur de la Santé, Jérôme Salomon, qui fait le point tous les soirs sur la situation en France, encourager le grand public, s'il le souhaite, à utiliser ses masques. Hier, il a précisé son propos.
L'idée n'est pas de proposer ces masques au personnel soignant, mais bien de les rendre disponibles pour des professionnels en contact avec du public, ainsi que pour des individus qui ont des contacts occasionnels avec d'autres personnes, sans pouvoir télétravailler, sans pouvoir garder les distances de sécurité d'un mètre. Quelle est la place des masques alternatifs? Ça peut être un complément, mais ça ne doit surtout pas induire un sentiment de fausse sécurité si l'on abandonne l'ensemble des autres mesures, le lavage des mains, la distance, la réduction des contacts et l'ensemble des gestes barrières.
Ah, Jérôme Salomon, directeur de la Santé, changement de ton dans le discours officiel alors que le Covid-19 a tué plus de 7500 personnes en France dans les hôpitaux et les EHPAD. 441 morts de plus à l'hôpital annoncé hier soir et de nouveaux transferts de malades d'Île-de-France aujourd'hui dans 2 trains direction la Bretagne. Revirement du gouvernement sur sa stratégie de masque. En tout cas, les Français ont un petit peu du mal à comprendre. Noémie Bonin l'a constaté dans une pharmacie à Paris.
On fait avec le système D.
Du bricolage, c'est ce que va devoir faire Fanny face à la pénurie de masques dans les pharmacies.
Là, je suis venue chercher des masques, des gants, un thermomètre.
Manque de chance, dans cette officine du 19e arrondissement de Paris, il n'y a plus de thermomètre, plus de gel hydroalcoolique et pas de masques disponibles non plus. Ça, c'est le cas partout, puisqu'ils sont réservés au personnel soignant.
On nous demande le confinement très bien, mais nous n'avons pas les outils pour nous permettre de vivre.
Face aux consignes officielles changeantes, les clients sont perdus et la pharmacienne bien embêtée.
Ça nous pose problème parce que les gens justement ne comprennent pas les consignes du ministère, vraiment contradictoires par rapport à ce qu'on a droit de faire.
Pas facile effectivement de s'y retrouver.
Les recommandations sont tellement contradictoires.
Aucun morceau de tissu ne cache la bouche de Nathalie.
Moi j'aurais tendance à penser que si on prend ses distances et qu'on ne s'approche pas trop d'autrui, on le protège. Mais après, très sincèrement, on est un peu dans l'expectative.
Eric, lui, n'a pas attendu les nouvelles recommandations pour porter un masque à chaque fois qu'il sort.
Maintenant, c'est masque pour tout le monde, alors qu'avant, c'était masque pour personne.
Lui raconte avoir acheté le sien au tout début de l'épidémie, dans un bureau de tabac, 1 euro l'unité.
Noémie Bonin et masque obligatoire dès aujourd'hui en Italie, dans la région de Lombardie ou encore en Autriche pour faire ses courses.
Et entre certains pays, c'est un peu la guerre des masques.
États-Unis accusés d'acheter dans les aéroports chinois des stocks prévus pour d'autres pays, on en a beaucoup parlé. La France également montrée du doigt par la Suède, précisément la décision de réquisitionner le matériel de protection sur le territoire français. Des masques à destination de l'Espagne ou encore de l'Italie étaient bloqués à Lyon. Stockholm a dû intervenir, Anne-Françoise Hiver.
On ne parle pas d'un incident, mais d'un hoquet diplomatique. L'affaire remonte à début mars, quand Emmanuel Macron signe un décret qui autorise la saisie des masques de protection en France. Parmi les géants du secteur, le Suédois Mölnlycke dispose d'une plateforme de distribution à Lyon. 4 millions de masques s'y trouvent alors, un quart est destiné à la France, le reste au marché européen. mais le décret de réquisition empêche les livraisons à l'étranger. La compagnie contacte alors le gouvernement suédois qui fait pression sur Paris. Finalement, au bout de 2 semaines, les masques peuvent partir vers l'Italie et l'Espagne. Mais pour la Suède, ce n'est pas suffisant. Stockholm exige la levée des restrictions à l'exportation au nom du principe de solidarité au sein de l'Union européenne. Les pressions ont-elles fini par payer? En tout cas, samedi midi, la chef de la diplomatie suédoise, Ann Linde, annonçait dans un tweet que Paris avait cédé. Les restrictions à l'exportation restent en place, mais Mölnlycke peut de nouveau livrer l'Europe depuis sa plateforme lyonnaise.
Anne-Françoise Hiver, correspondante de France Inter en Suède. Dans le monde, le coronavirus a fait plus de 63 000 morts, plus de 15 000 en Italie, où le nombre de personnes en soins intensifs a pour la première fois hier diminué. Au Royaume-Uni, en revanche, un record hier, plus de 700 morts en 24 heures. La reine Elisabeth II s'exprime cet après-midi. Les États-Unis ont dépassé la barre des 300 000 cas, plus de 8 000 morts. New York appelle à l'aide. Le président Trump annonce une période horrible pour son pays.
Et c'est dans ce contexte épidémique qu'une attaque au couteau s'est produite hier dans la Drôme.
À Romans-sur-Isère, 35 000 habitants en plein confinement. Certains étaient sortis faire des courses hier matin. 2 personnes sont mortes, 5 blessées dans une boulangerie, un bureau de tabac et dans la rue, agressé par un homme de 33 ans, un réfugié d'origine soudanaise arrêté juste après alors qu'il priait. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête, notamment après la découverte chez cet homme de documents dans lesquels il écrit regretter de vivre dans un pays qu'il qualifie de mécréant. Un parcours qui n'a pas manqué de faire réagir Maxence Lambrecq, la droite et l'extrême droite.
4 heures après l'attaque, le Rassemblement national publiait déjà un communiqué. Le député européen Nicolas Bay.
Ça pose évidemment le problème très grave de ce droit d'asile qui a été totalement dévoyé, qui aujourd'hui est devenu une filière à part entière de l'immigration clandestine, parce qu'ils obtiennent très facilement le statut de demandeur d'asile et qu'ils ne seront jamais expulsés, même quand ils ne sont pas éligibles au droit d'asile. Eh bien, beaucoup, évidemment, ont des intentions belliqueuses, bellicistes à l'égard de la France et des Français.
Tonalité similaire côté LR avec le député Fabien Di Filippo.
Le terroriste, eh bien, c'est quelqu'un que la France a accueilli, qui elle a offert sa protection et qui vient la poignarder dans le dos. C'est quelque chose d'absolument atroce et d'inacceptable.
Inacceptable aussi à ses yeux, ces milliers de détenus en fin de peine et de migrants libérés ces derniers jours des prisons et des centres de rétention par précaution sanitaire.
Quand on est en guerre avec des combats importants à mener sur le plan sanitaire et que mobilise toutes nos forces de l'ordre pour assurer la sécurité du territoire, eh bien vider les prisons, ça apparaît pour le moins irresponsable.
Parler d'unité nationale avant cet attentat, c'était déjà exagéré. Désormais, c'est impossible.
Pas d'unité nationale, mais l'État apportera les moyens financiers nécessaires aussi longtemps que la crise du coronavirus durera. C'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui l'assure au journal du dimanche aujourd'hui pour éviter, dit-il, un naufrage de l'économie. Et le secteur aérien particulièrement touché par cette crise. D'ailleurs, Air France KLM est en train de négocier un prêt bancaire de 6 milliards d'euros, Laurent Kramer.
Ces 6 milliards d'euros empruntés aux banques sont indispensables à la survie d'Air France KLM. À elle seule, Air France accumule 500 à 600 millions d'euros par mois de manque à gagner, en partie pris en charge par les mesures de chômage partiel du gouvernement. Mais les compagnies aériennes dans leur ensemble se préparent à de longs mois de difficultés avant un retour à la normale. En l'absence de trésorerie, il faut donc tenir au moins jusqu'à la fin de l'année en assurant dès la reprise des vols plusieurs milliards d'euros d'avoirs et de reports accordés aux voyageurs qui ne feront donc entrer aucun argent dans les caisses. Autant dire qu'Air France KLM mettra de longs mois avant de pouvoir rembourser ces 6 milliards d'euros comme pour toutes les entreprises. L'État assure son aide à Air France en garantissant ici auprès des banques 70% des sommes empruntées par la compagnie.
Alors, Kramer, un avion à destination de la France a quitté la Bolivie à son bord. Plus de 300 Européens, dont 139 Français bloqués depuis des semaines. Eux avaient embarqué avant la crise du coronavirus pour une croisière le long des côtes d'Amérique du Sud. Les 1800 passagers du paquebot Zamdam, dont une centaine de Français. Pendant 3 semaines, aucun port n'a voulu d'eux. 4 personnes sont mortes. Le bateau a pu finalement accoster en Floride, où les passagers ont pu d'ailleurs rentrer chez eux. Parmi eux, il y a l'écrivain journaliste Olivier Barraud. Il était chargé dans le bateau de conférence. Il revient sur ses semaines à bord.
Au milieu de la croisière, après environ 8 jours de navigation, on apprend que les côtes chiliennes nous sont interdites. Le Chili a interdit son espace et n'accueille plus aucun navire du monde entier. On a donc été constamment dans l'attente du résultat de négociations un peu perdus et effectivement éjectés de tous les ports de l'Amérique du Sud, car tous les pays ont successivement fermé leurs frontières. On a quand même dérivé pendant pratiquement un mois. Il y a eu des gens qui sont morts pendant ce voyage, sans doute du virus, d'autres qui n'avaient pas de médicaments à portée de main, mais de là à parler, comme on l'a dit, d'un calvaire, d'une tragédie, c'est carrément exagéré, et ça n'est pas comme ça. On a été, pendant ces 3 semaines, logés dans nos cabines, nourris, promener entre guillemets, bon c'est vrai qu'on avait un peu l'angoisse au ventre, je ne dirais pas le contraire, je ne joue pas les héros, mais parler d'un calvaire quand on pense à ce qui se passe en Méditerranée, ça a été une épreuve, il a fallu intérioriser, oui ça c'est vrai, c'est un épisode douloureux, sachons raison garder.
Des propos recueillis par Jacqueline Pétrose. En France, les essais cliniques se poursuivent, on vous en parlait il y a quelques jours sur Inter, un essai qui consiste à transfuser du plasma sanguin de personnes guéries du Covid-19 vers des patients dits en phase aiguë de la maladie démarre mardi dans 2 jours donc. Et par ailleurs, les annonces hier du ministre de la Santé ont quelque peu rassuré les associations de familles de personnes en situation de handicap. Le gouvernement a dit clairement que toute personne handicapée ne doit pas être discriminée dans un lieu d'accès aux soins en cas de contamination. Satisfaction de Luc Gâteau, c'est le président de l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales.
Si elle est atteinte du Covid-19 et qu'il y a un besoin urgent de rentrer en hôpital pour être en réanimation, il n'y a pas de question à se poser. Le deuxième point, c'est que l'amélioration de ces conditions de prise en charge hospitalière doivent être avec des possibilités d'accompagnement par des aidants. Nous accompagnons 200 000 enfants et adultes handicapés avec déficience intellectuelle, autistes, polyhandicapés. Ils ont besoin d'accompagnants et les aidants sont très importants. Et tout ça a besoin d'être mis en action le plus rapidement possible.
Le Gâteau interrogé par Célia Quiret. Sachez que Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, sera l'invitée d'Inter ce soir à partir de 18h. Elle sera dans le téléphone sonne XXL.
Oui, le téléphone sonne désormais le week-end avec Alexandra Ben Saïd. Et le monde du sport, lui, est en attente de jours meilleurs.
Oui, puisque tout presque est suspendu, arrêté les championnats, les compétitions. Plus question de parler de calendrier, de saison. En sport, ces mots n'ont plus aucun sens. Alors que certains tout de même reprennent, Guillaume Batin.
Premier confiné, fin janvier, les Chinois sont les premiers à reprendre aussi les compétitions, mais à huis clos et à l'étranger. En Italie, on parle de la reprise du calcio, le championnat de football début juin. Pareil pour la Ligue 1, dans le meilleur des cas, mais tout est conditionné à la fin de l'épidémie et au feu vert des autorités sanitaires. Didier Quillot est le directeur général de la Ligue de football professionnel.
On jouera tous les 3 jours. Dès que les autorités publiques permettront de revivre normalement, il faudra définir la période à laquelle on repartira.
Pour le tennis, il n'y aura pas de Wimbledon cette année. La Fédération française a reporté Roland-Garros au mois de septembre. Un choix judicieux pour Jean-François Cojol, l'organisateur du tournoi de Marseille.
Par le passé, on a souvent reproché à la France d'être un peu naïve. Il faut voir les Olympiades, on en a perdu 2. La troisième, si on l'a eu, on était les seuls à postuler. Pour une fois qu'on a des dirigeants français qui agissent avec pugnacité, je trouve que c'est une très bonne décision.
Après l'annulation des grandes classiques italiennes, le monde du cyclisme attend maintenant avec impatience le sort qui sera réservé au Tour de France. En attendant, certains pilotes ou athlètes se consolent en participant à des championnats virtuels sur Internet, sauf en Allemagne, où les footballeurs de Dortmund, notamment, ont déjà repris l'entraînement.
Guillaume Batin. Et puis, on le sait, la créativité artistique déborde en ces temps de confinement. Le Festival des Arts Confinés a même été créé à l'initiative de 2 artistes, PEM, Nano. Ils ont inventé une plateforme à destination de tous les artistes du monde entier. Et puis, des élèves d'écoles d'art également, à découverte avec Stéphane Capron.
Venise, comme vous ne l'avez jamais vu, avec ses canaux calmes, sans les hordes de touristes, ce sont 30 minutes de quiétude offertes par l'artiste italien Giuseppe Cremonini qui a posé sa caméra sur le devant d'une gondole. Tous les jours, depuis le 15 mars, PEM et Nano, ses commissaires d'exposition d'un genre nouveau, postent des vidéos du monde entier. Ce festival est né d'une urgence. PEM demande à tous ses artistes de travailler sur la temporalité du confinement.
Que fait l'art lorsqu'il est aux confins, aux limites et lorsque tout son système a besoin d'être repensé dans une création du confinement? Donc il s'agit là spontanément de continuer, de cultiver, questionner, fabriquer des émotions pour faire vivre la pensée, les interactions et ainsi que l'isolement ne soit que physique. Détendre l'esprit pour pouvoir penser.
Il y a des choses très drôles sur le site, comme ce jonglage en 4 minutes avec toutes les lettres du mot confinement mots pour former tous les mots possibles de la langue française. Ou cette sonate à l'accordéon pour abeilles confinées, enregistrée par Nano dans son terrain en Corse, autour de ses ruches.
Et le festival des arts confinés à suivre sur le site agora-off.com.
Le festival des arts confinés, il suffisait effectivement d'y penser. C'était le journal d'Estelle Schmitt. Le temps de ce dimanche du bon et du beau, Jean-Michel Golinski.
De faibles gelées vers 0, moins 2 degrés en début de journée dans le Grand Est, en particulier sur Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Cet après-midi, les valeurs vont grimper plus haut qu'hier sur les régions de la moitié nord avec 20 à 22 prévus au nord de la Loire, sur le bassin parisien et des Hauts-de-France au Grand Est, et souvent, comme hier, entre 20 et 24 au sud, avec 24 prévus par exemple sur le Pays Basque, 23 sur la Gironde, 21 degrés en Midi-Pyrénées, sur la Provence et en Basse-Vallée du Rhône, sous un ciel souvent dégagé, avec tout de même des nuages d'altitude, devenant plus denses en journée près de l'océan, ce ciel approche de pluie prévue demain sur la moitié ouest du pays. Reste à parler du vent, plus sensible qu'ailleurs aujourd'hui, près de la Manche, de l'océan et surtout dans le couloir de l'OTAN, avec des rafales vers 80 km/h sur le Tarn et le Lauragais.